Bonjour, bonsoir, selon de quelle partie du monde vous nous écoutez. Qui vous parle, Éric Domergue, vous donne la bienvenue à un nouveau programme en français de RAE, l'Argentine vers le monde. Avec la production de Silvana Avellaneda, Julien Cortés et Pedro Araos, responsables du web, et sous la direction de Adrien Corol, nous vous apportons les nouvelles et les rubriques habituelles sur le pays et la région.
Il était parti en catimini, deux jours seulement avant la cérémonie d'investiture de Lula. Le 1er janvier dernier, Jair Bolsonaro a fait son retour au Brésil après avoir passé trois mois en Floride aux États-Unis, bien décidé, semble-t-il, à revenir sur la scène politique. Mais ça s'annonce difficile pour l'ex-président qui est visé par plusieurs enquêtes judiciaires. On en parle avec Stéphane Witkowski. Bonsoir.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu sur TV5Monde. Vous êtes le président du Conseil d'orientation stratégique à l'Institut des hautes études d'Amérique latine, spécialiste du Brésil, où vous êtes rendu à de nombreuses reprises. Alors, d'abord, peut-être les images, qu'est-ce qu'elles vous inspirent? C'est vrai qu'on a vu l'ex-président arriver comme un citoyen quasi lambda à l'aéroport. Bon, certes, il y a eu quelques selfies, quelques égoportraits, comme on dit en bon français québécois. Retour plutôt timide, non?
Timide parce qu'en fait, il n'avait pas énormément de choix, parce qu'il ne pouvait pas rester à l'étranger très longtemps. D'abord, il a essayé de trouver une terre d'asile, si je puis dire. Il n'a pas trouvé beaucoup d'échos positifs. Il n'a pas pu faire non plus des grandes conférences internationales parce qu'il n'était pas sollicité comme d'ancien chef d'État. Donc il a voulu effectivement revenir, quitte à encourir évidemment des procédures judiciaires.
Mais comment ces partisans ont vécu? On lit parfois dans les dépêches des agences de presse « exil », est-ce vraiment le bon terme? En tous les cas, comment ont-ils vécu cela? Certains ont dit qu'ils quittent le navire.
En grande partie parce qu'il avait d'une part pas accepté la défaite de l'élection présidentielle, que d'autre part, il ne voulait pas mettre l'écharpe présidentielle à son successeur. Et donc, il est parti en Floride. Il a rencontré, revu son ami Trump et ses amis. Et de là, il a effectivement réfléchi à une stratégie de retour, voyant que la tentative du 8 janvier à Brasilia a été un échec, même si ses partisans le poussaient à continuer le combat politique. Mais en fait, si vous voulez, il se situe beaucoup plus comme un chef de bande, avec des miliciens, avec des hommes de ce qu'on appelle au Brésil des capangas, c'est-à-dire des hommes de main.
– Des miliciens ?–
Ah oui, il est entouré de miliciens.
– Il est entouré de des civils armés.
– Oui, bien sûr, et dans le Brésil. Et il a évidemment des soutiens dans le pays qui sont assez importants.
Oui.
Et en fait, ses supporters l'attendaient et il devait un petit peu occuper le terrain sur le plan politique vis-à-vis de son opinion publique, en partie discréditée, mais qui ne relève ni du jeu politique brésilien au Congrès, ni évidemment de la société civile qui ne l'attend pas. Mais il a malgré tout des partisans qui sont assez nombreux.
Alors on a vu le président Lula se faire vacciner il y a quelques jours avec une nouvelle campagne de vaccination. Est-ce que vous diriez que Jair Bolsonaro, je vous pose la question parce que forcément on va y venir en parlant de la suite, est-ce qu'il a perdu cette élection à cause de cette gestion de la crise sanitaire, cette gestion controversée de la crise sanitaire?
Alors, ça c'est un des éléments, mais un bilan économique et social absolument désastreux, un bilan en matière d'environnement absolument désastreux, c'est aussi un président qui n'a jamais endossé l'habit présidentiel, il n'a jamais fait de discours incarnant l'unité nationale ou s'adressant à tous les Brésiliens, il a beaucoup travaillé un peu agissant comme un homme de clan, en fracturant la société civile brésilienne pour exister politiquement. D'une partie du Brésil contre l'autre.
Ouais,
c'est pour ça que la société est beaucoup plus clivée, beaucoup plus divisée qu'auparavant.
Est-ce qu'il peut prendre la tête de l'opposition face au nouveau président Lula?
Non. Non, d'abord parce qu'il n'a pas de parti politique à sa disposition. Il y a un certain nombre de partis.
Le Parti libéral l'a accueilli aujourd'hui avec des véhicules d'escorte policière.
Oui.
Il va même recevoir, si j'en crois certaines informations, 7000 euros par mois comme président d'honneur de cette formation politique.
Oui, mais il a effectivement son parti, son petit parti libéral, mais qui en réalité ne représente pas grand-chose au Congrès. Bien évidemment, les oppositions sont assez représentées au Congrès, mais il n'est pas en mesure de créer une véritable structure d'opposition. D'ailleurs, ce n'est pas sa vocation, ce n'est pas son rôle, ce n'est pas son ADN. À la différence de Trump au Parti républicain aux États-Unis, ce n'est pas son cas. En fait, son objectif, c'est de continuer d'occuper le terrain à la fois politique et médiatique.
D'agiter. Pas de viser la fonction suprême ?
Je pense que ce sera très difficile. D'une part parce qu'il y a d'autres concurrents dans la scène politique brésilienne, il y a beaucoup plus d'autres talents qui vont apparaître, mais surtout parce qu'il n'aura pas d'alliés suffisamment solides pour constituer une véritable alliance. Ouais. Et je ne pense pas qu'il aura... En fait, l'idée, c'est de s'agiter, d'agiter politiquement le terrain médiatique et politique.
Mais avec des affaires qui vont s'intercaler dans tout ça.
Et bien évidemment.
Il y a plusieurs enquêtes, 5 au total.
Il y en a beaucoup plus. Il y en a 5 par la Cour suprême, il y en a 17 par le Tribunal supérieur électoral, pour différentes causes. Enfin, à la fois, les motifs sont extrêmement nombreux, y compris les affaires de corruption, y compris les affaires de bijoux d'Arabie saoudite, entre autres. Enfin, si vous voulez, la liste est absolument impressionnante.
Il peut aller en prison, selon vous ?
Sur le papier, il peut encourir 40 ans. Et la justice brésilienne est beaucoup plus indépendante qu'on peut l'imaginer. La société civile, c'est un peu organisée. La presse est plus active qu'auparavant. La démocratie brésilienne a été très fragilisée au cours des dernières années, mais elle est beaucoup plus solide qu'on ne l'imagine.
On a beaucoup comparé Donald Trump et Jair Bolsonaro. Est-ce que vous diriez qu'il est autant responsable de l'assaut sur Brasilia, Jair Bolsonaro, que Donald Trump l'a été sur le Capitole ?
Alors, évidemment, il a été à la manœuvre, mais pas de manière aussi directe, puisqu'il n'était pas un Brasilien à ce moment-là. Mais évidemment, ses partisans ont œuvré. Et d'ailleurs, c'est un des motifs qui l'encourt.
Il a créé quoi ? Il a créé l'atmosphère, le contexte pour que ses partisans avancent.
Il y a un certain nombre d'indications. L'idée était au fond de créer le désordre dans le pays, et en particulier à Brasilia, et d'invoquer et de justifier une intervention de l'armée. Ouais. C'était ça ce calcul.
Mais ce qui semble paradoxal, c'est qu'en même temps, vous dites, si on vous comprend bien, qu'il est plutôt isolé, qu'il n'y a pas de gros appareils derrière, politique et tout, mais quand même, tout le monde, ces images du mois de janvier dernier, on se dit, mais comment on peut avancer vers des lieux de pouvoir comme le Congrès, comme la Cour suprême du Brésil, il me semble, c'est bien
ça. Bien sûr, les trois pouvoirs.
On se posait la question même des forces de sécurité, d'une complaisance, voire d'une adhésion.
Il y a eu évidemment des complicités au niveau de, non pas de l'armée en tout cas, de la police militaire, absolument. Évidemment, et d'ailleurs l'enquête le prouve qu'il y a eu effectivement des complicités locales. Et il y a eu suffisamment, si vous voulez, de complicité dans le pays avec des financements évidents, bien évidemment, tout ça, ça a été prouvé. Mais pas au point de créer un coup d'État institutionnel. L'armée ne prend pas le pouvoir un dimanche.
Ouais, c'est un
en plus,
peu de pchit,
les lieux de pouvoir sont absolument vides ce jour-là. Personne à Brasilia. Vous imaginez bien qu'il n'y a pas eu une espèce de tentative organisée par un coup d'État, par l'armée.
Mais diriez-vous qu'il prône la violence ?
Bien entendu, ça saccageait les lieux de pouvoir. L'État dans lequel le palais du présidentiel, ça a été épouvantable. Et en plus, non seulement il avait été saccagé, mais tout la plupart des meubles, des affaires personnelles, normalement qui doivent rester dans le palais présidentiel, avaient été volés par ces hommes et par Bolsonaro.
Alors on l'a vu un peu fatigué, on l'a vu tout à l'heure, on disait en première partie, certains parlent de dépression.
Oui.
Il y a une chose qu'il n'a pas perdue, c'est son antisocialisme viscéral. À l'aéroport, il dit le Brésil va devenir le Venezuela. Oui. Je vous pose la question de manière totalement simple, le Brésil de Lula peut-il, oui ou non, devenir le Venezuela de Chavez ?
Bien sûr que non, c'est absurde. Enfin, je veux dire, ça, c'est une rhétorique contre un discours, contre les communistes, contre les... C'est une espèce de rhétorique qui n'a aucun écho et aucune chance. Il a même lancé ce discours, même contre, sur la scène internationale, contre la Chine. Il a été obligé de rectifier le tir très vite parce qu'évidemment, tout l'agro-business qui le soutenait avait besoin de débouchés commerciaux et avait besoin évidemment de partenariats dans le monde, y compris avec la Chine.
Et les premiers pas de Lula, comment vous les jugez ?
Ils sont, sont plutôt réussis, mais le défi est gigantesque. Non seulement il doit en 4 ans réparer 4 années de la présidence Bolsonaro, mais il a en plus des défis absolument gigantesques économiques, sociaux, environnementaux. Et en plus, il doit lutter contre des mouvements internes, grâce aussi à cette agitation.
Donc rassembler la nation, déjà.
Et il doit rassembler la nation, il joue cette rôle-là. Bien évidemment, il a sur la scène internationale une image et des appuis que Bolsonaro n'avait pas. Et ça change beaucoup. Et il doit faire en sorte que le Brésil ne soit plus le 13e pays dans le classement des pays du monde, qui était quand même au 6e rang quand il avait quitté le pouvoir en 2010, et qui a dégringolé depuis. Ouais. Donc le Brésil a beaucoup perdu.
Et on a 30 petites secondes, l'avenir de Bolsonaro, vous l'imaginez comment ?
Comme il a toujours été, un agitateur qui continuera sa carrière d'agitateur, ni plus ni moins, sans les qualités d'un chef, ni militaire, ni politique.
La visite n'est pas passée inaperçue. La présidente de Taïwan vient de passer 8 jours sur le continent américain, une escale aux États-Unis, c'est le terme officiel, et un séjour au Guatemala et au Belize. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Jean-Yves Heurtebise, maître de conférence à l'Université catholique de Fulan à Taïwan. Bonjour.
Bonjour.
Alors, quand la présidente est arrivée au pouvoir, parmi les 22 États qui entretenaient des relations avec Taïwan, la moitié se trouvait en Amérique latine et dans les Caraïbes. Aujourd'hui, Taipei n'a plus que 7 alliés dans la région, dont de tout petits États insulaires. La semaine dernière encore, elle a perdu le soutien du Honduras au profit de la Chine. Et il se dit que Pékin aurait signé pour cela un très très gros chèque. Est-ce que ça suffit selon vous pour expliquer ce revirement ?
Ça fait quand même partie des raisons. C'est ce qu'on appelle la diplomatie du chéquier. La plus diplomatie du chéquier, c'est évidemment quelque chose qui marche, qui a son avantage, qui est efficace. Bien entendu, il y a certaines limites à celle-ci parce que on dira il n'y a pas que l'argent, il n'y a pas que l'argent qui compte. Mais il est vrai que depuis la présidente Tsai Ing-wen, il y a eu 5 États d'Amérique latine, d'Amérique centrale, qui ont fait sécession, si je puis dire, qui ont rompu leurs relations diplomatiques avec Taipei pour nouer des relations diplomatiques avec Pékin. Et effectivement, le Honduras, c'est un des derniers. Et c'est juste avant que donc, la présidente Tsai Ing-wen, présidente du DPP, fasse ce déplacement avec un crochet aux États-Unis, au Guatemala et à Belize.
Alors, ce phénomène a déjà commencé depuis plusieurs années. Le Costa Rica avait été le premier en 2007 et à l'époque, le président parlait d'un acte de réalisme élémentaire pour expliquer la reconnaissance de la Chine, donc le fait qu'il tourne le dos à Taïwan. C'est du réalisme, tout simplement, de se tourner vers l'immense puissance chinoise ?
C'est-à-dire, le terme réalisme ici est un peu étrange dans la mesure où parfois, Pékin dit que c'est adapté à une position réaliste de dire que Taïwan fait partie de la Chine, alors qu'en réalité, la République de Chine, Taïwan n'a jamais fait partie de la République populaire de Chine, donc je dis populaire de Chine, et c'est la réalité. La réalité, c'est que Taïwan ne fait pas partie de la Chine, elle est indépendante de fait, et pour certains pays, donc pour les pays qui ont encore des relations diplomatiques avec elle, indépendante de juré. Donc c'est une forme de réalisme un peu paradoxal, parce que c'est un réalisme qui tourne le dos à la réalité de l'indépendance de fait de Taïwan, mais c'est un réalisme, on va dire, qui a un sens économique, un réalisme économique, dans la mesure évidemment. Ce que Pékin propose en termes financiers, Taipei ne peut plus maintenant, a abandonné l'idée de pouvoir rivaliser avec la Chine, parce que la Chine propose des montants colossaux d'aide à l'investissement, construction, qui évidemment font partie des raisons pour lesquelles les pays se tournent vers la Chine et rompent leur relation diplomatique avec Taipei.
Taïwan n'a plus les moyens de soutenir, voire d'entretenir ses partenaires ?
Alors, il est sûr qu'on ne peut pas tout à fait dire ça, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas s'aligner sur les montants que propose la Chine, parce qu'il faut voir aussi que parfois ses partenaires sont assez gourmands, c'est-à-dire qu'il y a aussi, d'une certaine manière, une volonté, une stratégie d'aller un peu, si vous m'excusez l'expression, d'aller vers le plus haut franc. Et donc, ces
États
aussi
savent. On l'a vu, par exemple, avec Sainte-Lucie qui a fait plusieurs allers-retours.
Voilà, exactement. Et on l'a vu aussi, en ce moment, on le voit aussi dans des micro-États du Pacifique, où certains États disent, si vous ne me donnez pas 50 millions de dollars, je ne pourrai pas continuer à avoir des relations diplomatiques avec vous. Donc, évidemment, il y a cette stratégie du plus offrant, et les pays savent comme ça aller d'un pays à l'autre ou recevoir ou non une proposition. Maintenant, ce que Taïwan offre, donc Taïwan offre malgré tout, bien entendu, ce soutien à cet investissement, construction d'hôpital au Belize, aide à l'investissement au Guatemala. Il y a quand même toujours une véritable stratégie, mais il ne s'agit pas de simplement de payer un pays, il s'agit vraiment d'essayer aussi de l'accompagner dans son développement, tout en proposant une offre qui est une offre un peu différente en termes de qualité et aussi, en termes, on va dire, de valeurs qui sont associées évidemment à l'offre de maintien de partenariat avec Taïwan, puisque derrière cette offre de maintien des relations diplomatiques avec Taïwan, il y a aussi évidemment ce qui importe pour Taïwan, pour ses partenaires et pour l'allié principal de Taïwan, à savoir les États-Unis. Ce qu'il y a, c'est quoi ? C'est les valeurs démocratique.
Et une vision politique. Alors, est-ce qu'on peut parler, selon vous, d'un effet domino en Amérique latine ? Et si oui, est-ce que le Guatemala, dont vous nous parliez il y a quelques instants, première économie de la région, peut rester sourd encore longtemps aux appels du pied de la Chine ?
Le Guatemala a fait un accueil assez fort à Taïwan, en disant qu'ils étaient vraiment restés dans le giron des relations diplomatiques avec Taïwan et qui ne voulait pas du tout se retourner vers la Chine. Et ce qui est intéressant, c'est que l'ancien ministre des Relations étrangères du Guatemala a dit qu'en fait, par là, ce que ces pays visaient là et ce que son pays visait, donc le Guatemala, c'était aussi les États-Unis. C'est-à-dire que ce que cet ancien ministre du Guatemala disait, c'est qu'en fait, à travers le maintien de la relation avec Taipei, donc avec la République de Chine, c'est-à-dire Taïwan, ce qui est aussi en même temps entretenu et ce qui aussi cherche à être renforcé, c'est la relation avec les États-Unis. Puisque avec les États-Unis, avec le nouveau Taipei Act, ils ont Taiwan Act, ils ont aussi toute une stratégie d'encourager les pays qui sont alliés de Taïwan de rester alliés. Donc le fait de maintenir des relations diplomatiques avec Taïwan, cela veut dire aussi pour ces pays à montrer face aux États-Unis qu'ils sont dans le camp américain, dans le camp de la démocratie. Et donc, d'une certaine manière, par là, ils se retournent aussi, ils maintiennent, ils encouragent, ils veulent aussi attirer l'allié américain à prendre soin aussi de leur nécessité en termes de développement.
Et puisque vous nous parlez des États-Unis, en un mot, il faut souligner aussi que c'est un des objectifs de la présidente taïwanaise, développer des relations informelles avec Washington. Elle y est allée à 6 reprises.
Ça, c'est quand même quelque chose qui veut dire, c'est-à-dire qu'on ne va pas simplement insister sur le fait qu'il y a une rupture des relations diplomatiques officielles avec certains pays d'Amérique latine, d'Afrique ou aux États du Pacifique. Il faut aussi souligner, je pense que c'est essentiel, le fait que pendant cette présidence taïwanaise, jamais Taïwan n'a eu autant de relations non officielles, mais de relations quand même avec des pays qui sont en Europe, qui sont aux États-Unis. Donc jamais les relations entre Taïwan, même si elles sont informelles, même si elles sont non diplomatiques, non officielles, on va dire, jamais elles n'ont été aussi fortes.
Elles existent quand même et elles se renforcent sous la présidence de Tsai Ing-wen. Merci beaucoup Jean-Yves Ortebiz d'avoir été avec nous, maître de conférence à l'Université catholique de Fulan à Taïwan. Les habitants de Juliaca au Pérou, toujours sous le choc 3 mois maintenant après une manifestation violente près de l'aéroport, au plus fort de la contestation contre la nouvelle présidente par intérim, Dina Boluarte, et contre la destitution de Pedro Castillo. Des manifestants avaient tenté d'envahir les lieux, d'entrer dans l'aéroport. La répression avait été brutale, le bilan très lourd. 19 civils tués, un policier brûlé vif et des dizaines de blessés. Notre correspondante Juliette Chénion est retournée sur les lieux où l'on attend toujours justice pour les victimes. C'est notre dossier du jour.
Une dizaine de familles arrivent à la paroisse Saint-Miguel, un quartier de Juliaca. L'association des victimes du 9 janvier y a convoqué des avocats pour des consultations gratuites. Pilar serre dans ses bras le portrait de son petit frère Rolando, 24 ans, mort après avoir reçu une balle dans la tête près de l'aéroport. Trop émue, elle laisse son mari Javier prendre la parole.
En réalité, notre objectif, c'est de trouver le responsable, qu'il y ait un coupable identifié pour que nous soyons en paix.
Le parquet assure avoir ouvert une enquête, mais le processus judiciaire risque d'être long, les familles en ont conscience. Qui plus est, beaucoup d'entre elles n'ont toujours pas été appelées pour témoigner et ne savent rien de l'avancée des investigations. Certaines se sont vues proposer 13 000 $ de dédommagement de la part de l'État.
Nous venons d'une famille très modeste, nous ne sommes pas tous égaux, ceux d'en haut, ceux d'en bas, mais la vie de mon beau-frère n'a pas de prix, on peut me proposer 13 000 ou 25 000 dollars, ça ne lui rendra pas la vie, il était jeune, il avait plein de projets.
Javier déplore aussi les conséquences psychologiques de ce drame, ses enfants en bas âge paniquent désormais à la vue d'un hélicoptère comme ceux qui ont survolé la ville le 9 janvier.
Ils crient en disant « ne tuez pas mon oncle », c'est-à-dire qu'ils sont traumatisés. Et nous aussi, on souffre de ça. Mais une thérapie, c'est plus de 100 dollars. Alors on ne peut pas. Les enfants voient les policiers comme de mauvaises personnes. Ils sont tout petits, mais ils ont déjà pas mal de rancœur.
Elisban Blasmamani, lui, ne trouve plus le sommeil la nuit. Le 9 janvier, ce trentenaire rentre d'un match de foot joué à proximité de l'aéroport.
Je me suis retrouvé devant les manifestations. Les policiers lançaient des gaz lacrymogènes. Il y avait des personnes âgées, des enfants qui n'arrivaient pas à respirer. J'ai essayé d'aider les enfants, les jeunes, les dames. C'est là que j'ai senti un impact d'armes à feu. Et je suis tombé. Et je ne pouvais plus marcher. J'ai voulu courir à nouveau, mais je ne pouvais pas. J'agonisais. J'étais presque inconscient.
Depuis, Elisban reste alité. Chez lui, des broches plantées dans la cuisse. La balle a brisé son fémur et l'immobilisation doit encore durer 4 mois. Pour être soigné, Elisban a dû aller jusqu'à Arequipa, à 500 km de là. L'hôpital de Juliaca n'était pas en mesure de le prendre en charge.
Tout ça a pris 3 jours. J'étais indigné. Pourquoi ils ne m'ont pas envoyé ailleurs plus tôt? Je suis père de 2 enfants et ma femme est enceinte de 5 mois. J'étais le seul revenu de la famille et aussi de mes parents. Je ne peux plus aider ma famille et je vais très mal. Je ne peux plus marcher, pas même aller aux toilettes.
Les blessés les plus graves sont censés recevoir 6500 dollars de l'État, mais Elisban ne sait pas comment les obtenir.
De la part du gouvernement, je n'ai pas eu de soutien, ni moral, ni physique, rien. Pas un dollar.
Ni un sol.
Comme Elisban, des centaines de blessés attendent réparation. La répression au Pérou a tué plus de 50 personnes en l'espace de 3 mois.
Escondense!
Des tirs, puis ces mots « cachez-vous », des scènes de chaos ce week-end dans plusieurs prisons du Honduras où plusieurs gangs ont lancé des émeutes. L'événement est à la une de la presse, vous l'avez lu pour nous. Bonjour Christophe Paget.
Bonjour.
Il y a eu 1 mort et 7 blessés.
Oui, samedi, de manière simultanée, dans plusieurs centres pénaux de sécurité maximale, des affrontements ont eu lieu entre les prisonniers, écrit El Hondo Diario. Les gangs impliqués sont le MS-13 et Pandilla 181. Le journal rapporte qu'une des organisations criminelles a reçu des instructions de l'extérieur des prisons pour tenter de déstabiliser la sécurité nationale pendant les derniers jours de la Semaine Sainte. Bilan, 1 mort, un membre de la Pandilla 18, écrit El Heraldo. Le journal pour qui les prisons du Honduras se sont transformées en champs de bataille où les prisonniers obtiennent facilement des armes. El Tiempo rapporte de son côté la demande, dans une vidéo sur le réseau TikTok, d'un groupe de prisonniers exigeant de la présidente Xiomara Castro qu'elle amnistie tous les prisonniers comme elle a amnistié des politiques.
Mais la présidente, on s'en doutait, Christophe, n'a pas choisi cette voie.
Xiomara Castro annonce une intervention dure dans les centres pénitentiaires, titre confidentiel. Je vais sévir et ramener l'ordre dans les prisons jusqu'à ce qu'elles soient transformées en centres de réhabilitation et pas en école du crime et de la torture, une situation dont j'ai hérité. De fait, El Hondo Diario rappelle que ces dernières années, le Honduras a vécu une série de mutineries et d'émeutes dans ses prisons, causées par la surpopulation carcérale, la corruption et la violence généralisée dans le pays. Les prisons sont contrôlées par des bandes criminels qui y imposent leurs lois et les autorités qui ont promis d'améliorer les conditions de détention et réduire la violence n'ont obtenu que des résultats limités, souligne le journal.
La chanteuse Zaz sera en tournée en Amérique latine avec 3 escales en Argentine. Córdoba le 19 avril, Rosario le 21 et Buenos Aires le 22. Nous terminons ce programme avec la radio qui chante en duo avec Yves Jamais.
Elle regarde son réveil.
Lui a perdu le sommeil.
Elle a son boulot.
Lui pas trop.
Elle sort doucement du lit.
Quand lui s'accroche à sa nuit, exhalant de sueur.
Elle de fleurs. Elle, la radio qui chante, la joie qui les vante, malgré tous les bleus.
Lui, le visage mort, l'artifice encore. Gamin trop vieux.
Elle s'en va courir dehors.
Lui surpris respire encore.
Elle a plein poumon.
Lui goudron.
Elle prend sa vie à peine main.
Lui la remet à demain. Jamais de projet.
Elle en fait.
Ah, elle, la radio qui chante. La joie qui les vante. Malgré tous les bleus. Lui, le visage mort. L'artifice encore. Le gamin trop vieux.
elle pense que la vie est belle.
Lui la trouve trop réelle, bien trop prosaïque, trop cynique. S'il prend bien trop ses distances,
elle vit les autres comme une chance.
Lui comme un fardeau,
elle cadeau.
Ah, ah, elle,
la radio qui chante, la joie qui les vante, malgré tous les bleus. Lui, le visage mort, l'artifice encore, le gamin trop vieux.
Elle pense que la vie est belle, belle, belle.
Lui, pas trop.
Elle pense que la vie est belle, elle, belle, belle.
Lui, bobo.
Elle rentrera seule chez elle, lui, dans sa vie qui chancelle. Peu de chance pour qu'une histoire commence.
Elle continuera donc seule, lui fera toujours la gueule. Ces deux-là ne se croiseront pas.
Faut quand même un minimum pour construire une histoire d'amour. Ça se passera pas comme au cinéma. Parce que elle, la radio qui chante, la joie qui les vante, malgré tous les bleus. Lui, le visage mort, l'artifice encore, le gamin trop vieux. Elle, la radio qui chante, la joie qui les vante, malgré tous les bleus. Lui, le visage mort, l'artifice encore, le gamin trop vieux.
Et ainsi se termine ce programme en français de Rai et l'Argentine vers le monde. On se retrouve dans une semaine.